Bonjour, vous êtes bien en train d'écouter la nouvelle émission de Radio FM+. Veuillez recevoir tout ce qui concernera le calendrier, le règlement, les informations de cette émission seront à trouver sur la page Facebook Veuillez recevoir ainsi que sur le site de Radio FM+. À Madame la Marquise de V. Madame, vous me ferez la grâce de trouver quelque intérêt à ce nouveau projet qui se déploiera sur les ondes de Radio FM+. Permettez-moi de vous en révéler la singulière nature. L'émission s'intitule « Veuillez recevoir » et ne saurait être mieux nommée. À l'instar des salons élégants où vous rayonnez si brillamment, elle ambitionne de raviver l'art délicat de la lecture par le moyen des ondes radiophoniques. Or, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit point ici de l'échange habituel entre amants éplorés ou de ces compliments galants que vous avez l'habitude d'entendre. Au contraire, ce sont des personnes de tous horizons, de celles que l'on tient parfois pour oublier, reléguées, loin de nos préoccupations, qui en seront les protagonistes. Vous sauriez, madame ? Et je le devine d'ici. Que peuvent donc m'écrire un invalide, une vieille dame esselée, un moine ou même un prisonnier enfermé dans sa cellule? Vous imaginez que ces correspondances seront moroses, dépourvues de la verve piquante qui anime nos propres échanges? Eh bien, vous vous trompez. Ce que Veuillez recevoir promet d'initier est une société de lettres et de styles où chacun, quel que soit son rang ou son état, peut prendre la parole et, le temps d'un message, retrouver une voix dans le silence. Quel meilleur antidote aux solitudes modernes que cet exercice d'écriture ? Quelle meilleure façon de contrer la brièveté et la vulgarité des messages anodins qui inondent nos jours ?
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Jolie marguerite sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes sébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
Figurez-vous, madame, que cette émission, par sa structure, se veut une véritable promenade épistolaire. Sa saison 2024-25 débutera par une lettre maîtresse, lue avec soin et élégance, pour ensuite donner lieu à des réponses qui se succéderont au fil des mois. Ce sera comme un jeu de miroir, chaque auteur se découvrant à travers les mots de son interlocuteur inconnu, chaque lettre tissant avec la précédente un lien de plus en plus étroit, à l'image de ces intrigues entrelacées dont nous sommes, vous et moi, si friands. Et ce n'est là qu'une partie de son charme. Je veux que vous imaginiez ce que sera le frémissement de l'antenne, cette électricité particulière lorsque chaque correspondant entendra, dans le creux de son salon ou de sa chambre, les mots qu'il a pris soin de ciseler, s'élever à la voix d'un autre, se mêler au son feutré de l'émission. L'écoute attentive de chaque lettre, l'attente de la réponse, l'anticipation des prochaines interventions, tout cela créera un suspense doux et continu, une mélodie nouvelle dans le silence ordinaire du quotidien. Il y aura de tout, m'a-t-on assuré, des confidences sur la vie, des anecdotes touchantes ou drôles, des observations acerbes sur l'état du monde. Et même, qui sait, des missives pleines de fiel ou de désir, car comment éviter que la passion ne s'invite là où l'on se raconte ? Mais ce qui fait le charme singulier de Veuillez recevoir, c'est qu'à la différence de nos courriers clandestins, ces lettres se liront à haute voix. Elles seront transmises, entendues, commentées, et cela par une audience plus vaste encore que ne l'est celle de votre cercle si choisi. Je sais déjà que certains douteront du succès d'une telle entreprise. Qui, à notre époque, où l'image et l'immédiateté règnent en maître, prendrait le temps d'écrire longuement, patiemment, une lettre destinée à un inconnu ? Et pourtant, madame, n'est-ce pas précisément dans cette lenteur choisie, dans cet effort du verbe que réside la beauté de ce projet ? Les plus sceptiques seront surpris de découvrir combien de personnes, malgré tout ce que l'on prétend, ressentent encore le besoin de dire, de se confier, de narrer leur vie et d'en recevoir l'écho. Au-delà de la performance stylistique, de la recherche des belles formules, l'émission radiophonique Veuillez recevoir sera un espace d'écoute et de reconnaissance. La lettre, écrite et lue, comme dans un rituel ancien, créera entre les participants un lien secret, un engagement tacite. Chaque mot sera pesé, non seulement pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il signifie de présence, de dialogue, d'attention portée à l'autre. Et quelle rareté, madame, que cette attention dans un monde qui nous précipite sans cesse dans des échanges superficiels. Madame, pour être acceptée, une lettre devra mériter sa place. On attendra d'elle qu'elle soit écrite avec soin, d'une plume exempte de négligence et ne se prive pas de trouvailles. Comme si chaque mot, chaque tournure de phrase était un hommage à ce que nous aimons le plus, la perfection de l'esprit. Rien ne serait plus contraint à l'intention de cette entreprise que la brutalité d'un discours hâtif, la facilité d'une réflexion bâclée. Ce qui est recherché ici, c'est une réhabilitation du verbe, une redécouverte du plaisir à échanger des idées, des émotions, des rêves, pour se rapprocher les uns des autres, malgré l'éloignement des corps.
Allô ?
Ah, c'est toi ?
Oui, mon chéri. Oui, mais en la relisant, ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi... C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur le i, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur, là, y'en a une. J'en mourirai, le bon français, ne comprends-tu pas? Ça sera de ta faute, ça sera de ta faute. Ben là, y'en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un cachet, au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera, et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, oh, dans l'eau. Allô? 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 Oh, zut, elle a coupé.
Peut-être, au début, ces correspondants hésiteront, leurs plumes seront maladroites. Mais peu à peu, j'imagine déjà leurs lettres s'épanouissant, leurs récits se précisant, leurs observations s'affinant. Peut-être même y aura-t-il des rivalités discrètes, des duels de mots comme il y avait jadis, des duels d'épées. Vous imaginez, n'est-ce pas, la surprise d'un modeste employé de bureau découvrant un beau matin que sa lettre a touché une grande intellectuelle ? Ou encore la perplexité amusée d'un étudiant recevant la réplique d'un vétéran de la Légion étrangère. Ce sont des correspondances improbables, mais d'autant plus précieuses. Il y aura des styles si divers, la précision du webmestre, la poésie de l'attaché de presse, la candeur aimable d'une jeune fille de province, le souffle parfois chaotique mais sincère de ce que la vie a chahuté. Ah, madame, c'est là que réside toute la promesse de veuillez recevoir. Révéler dans la multiplicité des voix ce que nous partageons tous en dépit de nos différences. Mais revenons aux règles, car il y aura des règles comme dans toute société digne de ce nom. On m'a glissé que la lettre initiale devra être d'une longueur respectable. 3200 mots, 20 minutes de lecture à haute voix, imaginez-vous. Et que chacune des réponses, aussi longue ou plus courte que la première lettre, sera lue à l'antenne si elle satisfait aux exigences du programme. Ah, combien je voudrais que vous, ma chère amie, vous prêtiez à cet exercice, que vous usiez de votre brillant talent pour surprendre ces inconnus. Je gage que même les plus endurcis tomberaient sous le charme de votre prose. Quant aux délais, qui, vous le savez, sont l'ennemi mortel des lettres d'amour, ils seront strictement observés. Chaque envoi devra parvenir avant une date précise et selon un règlement que vous trouverez sur le site de Radio FM+, ou la page Facebook « Veuillez recevoir ». Faute de quoi, l'échange risquerait de se rompre comme une chaîne incomplète. Tout cela confère à cette entreprise une discipline qui ne manque pas de noblesse. Il y aura des appels à écrire mensuels, des attentes impatientes, des déceptions peut-être, et beaucoup de bonheur à la réception d'un courrier espéré. Et pourtant, je m'imagine déjà les débats qu'une telle entreprise pourrait susciter. Certains diront que c'est un projet d'un autre temps, inutilement nostalgique, d'autres le railleront pour son aspect élitiste, pensant que seuls ceux qui savent manier les mots s'y risqueront. Mais ne vous y trompez pas, madame. Veuillez recevoir, s'adresser à tous, précisément parce que chacun a quelque chose à dire. Ce projet ne se soucie ni de la virtualité, ni du style en soi. Ce qui compte, c'est l'intention, le désir sincère de tisser un lien par le moyen des mots.
Extrait de la lettre que Julos Bocarne écrivit dans la nuit du 2 au 3 février 1975, après la mort de sa femme assassinée par un homme devenu fou. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers.
Ah, combien je serais curieux de voir qui osera le premier s'aventurer dans cette aventure épistolaire. Peut-être, qui sait, un jeune poète méconnu, ou une femme âgée, peut-être très âgée, dont les souvenirs jamais comptés seraient tout à coup libérés par cette occasion unique. Peut-être une enfant, découvrant pour la première fois le pouvoir des phrases bien ordonnées. Ce qui est certain, madame, c'est que ces lettres seront à leur manière un reflet de notre époque, un témoignage inattendu de vies ordinaires transformées par le simple fait d'écrire. Mais ce qui me réjouit par-dessus tout, madame, c'est de songer à l'idée que veuillez recevoir pourrait accomplir ce qu'aucune lettre ordinaire ne saurait, faire se rencontrer par le goût des mots échangés ceux qui, autrement, ne se seraient jamais croisés. Je vous prie de bien vouloir, chère marquise, réserver un regard indulgent à ce projet et qui sait, de laisser votre plume inspirée vous guider, peut-être, à y prendre part un jour. Je demeure, madame, votre dévoué et admirateur. Post-scriptum. Pour ne point faillir à l'étiquette, il conviendra d'adresser toute missive à cette émission à l'adresse indiquée ci-dessous, en prenant soin de respecter les formes et formats. Ce sera, je crois, un hommage bien mérité à cette tradition si précieuse que vous incarnez avec tant de grâce. Pour un envoi par courriel, veuillez recevoir tout attaché @gmail.com. La pièce jointe sera au format PDF ou Word. Par voie postale, émission Veuillez recevoir, radio FM+, 4 rue Saint-Barthélemy, 34 000, Montpellier. Pour la technique de l'enregistrement de ce premier numéro de Veuillez recevoir, merci à Yann. Charles Bukowski, correspondance, 1958-1994, enregistré en public le 27 septembre 2013 dans le cadre des correspondances de Manosque au théâtre Jean le Bleu. Réalisation Manouchak Fachaï, lecture par Jacques Gamblin.
Je sais, tu dois penser que je suis un fils de pute parce que je ne donne pas de mes nouvelles. Mais tu sais comment ça se passe. Rends un homme un peu célèbre et il sera trop occupé à regarder son propre trou du cul dans le miroir pour se souvenir de ses débuts. C'est bien ça. Personne ne comprend un alcoolique. J'ai commencé à boire jeune, à 16 ou 17 ans, et chaque matin, j'y avais toujours droit à ces regards, à cette haine. Mais ça ne changeait rien, mes parents me haïssaient de toute manière. Et je me souviens leur avoir dit un matin, « Bon, putain, je me suis bourré la gueule, et alors ?» Vous, les gens, vous me traitez comme si j'étais un assassin. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Ils m'ont répondu. Ce que tu as fait, c'est pire que d'assassiner les gens. Et ils le pensaient. Eh bien, ce qu'ils pensaient, c'est que je les disgraciais socialement aux yeux des voisins. Et qu'il y a peut-être moyen de trouver une excuse au meurtre, mais pas à l'alcoolisme. Il n'y en a jamais, mon Dieu non. Ils en étaient sûrement persuadés parce que lorsque la guerre a commencé, ils m'ont poussé à rejoindre le meurtre. Était socialement acceptable. À Douglas Blazek, 4 novembre 1964. Voilà ce que je faisais avant 35 ans, l'âge où j'ai commencé à écrire des poèmes. J'agonisais, mon chou. J'agonisais. C'est aussi un mode de vie. Tu vois, j'ai commencé par écrire des nouvelles. Je me souviens quand je n'étais qu'un gamin, j'avais 16 ou 17 ans, et je commençais à peine à faire mumuse avec des nouvelles. Un soir que je rentrais à la maison, j'ai trouvé toutes mes fringues jetées dehors sur la pelouse, manteau, chemise, caleçon, chaussettes et nouvelles. Le vieux, sans y avoir été invité, avait fourré son nez dans un tiroir, il était devenu critique littéraire. « Mon fils n'écrira pas des trucs pareils tant qu'il vivra chez moi. Ramène-toi dehors, je lui ai dit, et je te défonce la gueule. » Je crevais de faim dans des chambres minables en banlieue. Je buvais de la vinasse. J'écrivais 8 à 10 histoires par semaine. Tout ce que je faisais, c'était écrire et boire le plus possible. Et puis, j'ai entendu parler de Story, dirigé par Whit Burnett, et après plusieurs lettres de refus, j'ai finalement publié ma première nouvelle dans ce magazine à l'âge de 24 ans. S'en suivirent d'autres publications. Et puis, l'alcool a repris le dessus, c'est que l'écriture m'a semblé être une activité stupide. Ça m'est apparu comme un jeu de con. Je travaillais de temps en temps, très peu. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait. Mais boire, ça, c'était le nirvana. Peu importait la ville, l'année, le moment. À Philly, j'avais l'habitude de frapper à la porte de ce bar dès 5h30 du mat, et un vieux barman qui faisait tous les jours le ménage avant l'ouverture me laissait entrer. Et je m'asseyais, j'écoutais les frottements mouillés du balai derrière moi. On buvait à l'œil tous les deux. Je faisais la fermeture à 2h du mat. Tu admettras que je ne dormais pas beaucoup. On m'a viré d'une piole à l'autre pour ivresse, pour loyer impayé ou parce que je ramenais des femmes tard dans la nuit. Je vivais au jour le jour, tout était dépourvu de sens. Je ne cherchais rien de particulier. Il n'y avait que les rayons du soleil, la pluie, la neige, les cauchemars, l'errance et le prochain verre que j'avalerais pour me tenir compagnie. Comme je l'ai dit, j'ai pris quelques boulots, ils étaient durs, sous-payés, monotones, asphyxiants, ils le sont toujours. Je prenais ces boulots tout simplement parce que je suis incapable de faire un travail qui demande des compétences. Et en plus, je n'ai pas de métier. Toujours est-il qu'à 35 ans, les femmes et l'alcool m'avaient rattrapé. J'ai fini dans le pavillon des œuvres de charité de l'hôpital du coin, crachant du sang, saignant de l'anus, complètement vidé, foutu. Ils m'ont laissé dans cet état pendant 2 jours avant qu'un toubib n'arrive et décide de me transfuser. J'ai reçu 4,5 litres de sang plus des perfs de glucose. Pendant ce temps-là, ma pute bousillait ma vieille caisse dans les rues. J'en suis revenu vieilli de 900 ans, je me suis trouvé un boulot d'expéditionnaire, je me suis dégoté une machine à écrire. Et j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai envoyé la première fournée à un petit magazine au Texas, et là, bingo! J'ai finalement atterri là-bas avec 75 cents en poche, marié à l'éditrice dont le père était millionnaire. Après 2 ans de mariage, elle a décidé que j'étais un salaud, et au revoir les millions. Je me suis remis à boire tout en écrivant toujours plus de poèmes. Physiquement, je suis toujours dans un piteux état, je ne sais franchement pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Mon boulot actuel ne vaut pas mieux que le reste, mais je suis toujours vivant, c'est le principal. Une femme et un bébé de 8 semaines viennent de sortir. Elles font toutes les deux partie intégrante de ma vie. Elles sont parties se promener. Je suis en train d'écrire du Balzac. Tiens, il y a une mouche sur la vitre. Maintenant, elle est partie. J'ai eu un chien une fois, moitié loup, moitié collet, mais très affectueux. Et je marchais avec lui en le tenant en laisse dans la rue, et à un moment, il s'est arrêté, il a commencé à pisser sur un plan devant une société immobilière de Beverly Boulevard. Je l'avais formé à chier et pisser dans les terrains vagues, mais il a pissé sur ce buisson. C'est alors que le proprio de l'agence a bondi de son bureau et il a hurlé « Hé ! Virez-moi ce chien du buisson, hé ! La pisse, c'est du poison ! Il a pissé sur mon buisson !» On aurait pu entendre hurler ce type jusqu'au fin fond de Bensonville, dans l'Illinois. J'ai regardé sa tronche corrosive, ses yeux et son corps qui se balançaient comme une marionnette. Je ne peux pas contrôler ses envies de pisser. Alors allez le faire pisser n'importe où ailleurs, mais dégagez-le-moi de là. J'ai pas bougé. Le chien ou moi, on aurait pu le tuer si on avait eu envie. Ta connerie de buisson ne va pas mourir, et si jamais il crève, je te rembourserai. Virez-moi ce chien de là. Il a recommencé. On n'a pas bougé de là. Jusqu'à ce qu'il rentre dans son bureau compter ses foutues billes. Parfois, je me dis que ces gens savent qu'ils sont déjà presque morts, aigris, inutiles. Ils ne supportent rien ni personne. Voir des gens ou des choses gais, insouciants, tranquilles, les dérange profondément. Ils ne savent même plus ce qu'est la tristesse. Ça devait être leur destin. Mon loup collé a été tué par une voiture quand j'ai rompu avec cette femme. Je l'avais laissé avec elle. Ouais, les animaux domestiques meurent rarement de vieillesse. Et bordel, comme je hais ce foutu monde et ses très chères valeurs. Blaze, tu passeras au-dessus d'un chien, mais tu ne passeras jamais au-dessus de ce qu'ils sont faits, le drapeau américain, l'argent, la propriété. Tous les citoyens morts dans les villes de l'horreur, de la folie et de la peur. Putain. Putain. À Karl Weissner, 13 mai 1967. Je suis désolé pour North et son obsession du suicide. Moi aussi, j'ai connu ça par période. Ça venait par période et c'est marrant, mais si l'on arrive à sortir de cette obsession du suicide, on se sent plus fort. Meilleur, on en sort foutrement endurci, et après ça, on peut presque tout encaisser. Il se peut même que le suicide soit un processus de croissance. Tu touches presque le fond, et ensuite tu refais surface. C'est une sorte de nouvelle naissance. Nous, tout ce que nous avons comme moyen radical, c'est le toit des immeubles. Et encore, le temps que tu tombes, tu peux encore changer 6 fois d'avis avant de toucher le trottoir. C'est pourquoi je préfère les méthodes aléatoires dans lesquelles entre une grande part de hasard et qui te laissent de multiples alternatives, les somnifères, le gaz, la pendaison. Un jour, j'ai essayé le gaz. J'ai ouvert tous les brûleurs à fond, je me suis étendu sur le lit, ça a failli m'assommer. J'étais bien parti, sauf que respirer tout ce gaz, me sentir dans une sorte d'atmosphère gris-jaune m'a donné la migraine. Une terrible migraine, la migraine m'a réveillé. J'ai sauté du lit en me marrant, espèce de cinglé. T'as pas envie de mourir? J'ai continué à me marrer, ça m'a semblé tellement comique. Et je suis allé éteindre le four et tous les brûleurs de la cuisinière. Je suis sorti m'acheter une bonne bouteille de whisky et quelques cigares de grande marque. Et j'ai terminé la soirée en baisant avec une femme, tout en me gardant bien de lui dire qu'elle était en train de baiser avec un revenant. Est-ce que ces putes ont cette façon de te sermonner comme une maman, que ça en devient profondément ennuyeux? Tu ne peux jamais vraiment rien dire à une femme. Elle déforme et dénature toujours le truc parce que la femme est le bavardage incarné de la renaissance et de la responsabilité. Elle nous aime vraiment. Les meilleures d'entre elles nous aiment vraiment. Et elles prennent soin de nous, mais leur façon de s'occuper de nous est quelque part insatisfaisante. C'est comme si elles voulaient nous débarrasser de tous nos défauts au lieu de les comprendre. Elles espèrent faire le grand nettoyage et nous ramener à un état originel, à une sorte de bonheur avec des barreaux castrateurs, un lécheur de chattes souriant et castré. Voilà ce qu'elles veulent. Et c'est pourquoi je ne tiens pas le coup avec n'importe laquelle de ces dames bien longtemps. Je n'ai jamais vu un homme se balader bras dessous avec une prétendue belle fille pour lequel je ne me sois jamais senti triste. L'un de ceux chez qui je suis allé m'a demandé « Comment fais-tu pour écrire ?» Créer. Tu ne fais rien, je lui ai répondu. Tu n'essayes pas, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne pas essayer. Que ce soit pour une Cadillac, la création ou l'immortalité, tu attends. Et si rien ne se passe, tu attends encore un peu. C'est comme une bestiole tout en haut du mur. Tu attends qu'elle vienne vers toi et lorsqu'elle est à portée de main, tu lui mets une grande claque et tu la liquides. Ou alors, si elle a une tronche qui te revient, tu en fais un animal domestique. Tu ne peux pas établir de telles règles. C'est facile pour toi de dire « n'essaye pas », mais tu ne peux pas imposer de telles règles à tout le monde. C'est comme si je disais « ok ». Ok, j'ai dit « j'abandonne ». J'ai entendu ce genre de trucs il y a des siècles, et je les entends encore, toujours les mêmes expressions, les mêmes vieilles paroles usées, des trucs comme, disons, ils aiment bien le mot « culture ». Et le mot « classe moyenne ». Ils les mélangent et ils obtiennent le mot « culture de classe moyenne ». Ça ressemble à quelque chose, ils sont contents. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est comme les droits civiques. Ou le mot « liberté », des mots anciens détournés de leur sens, devenus creux à force d'abus. Ce soir, quelqu'un m'a répondu quand je lui ai dit que les êtres authentiques travaillaient dans l'industrie de la pêche. Ce quelqu'un m'a répondu que les types qui bossent dans l'industrie de la pêche étaient trop fatigués pour écrire. Alors je lui ai dit que les profs de lettres étaient trop pas assez fatigués pour écrire. Alors cette femme a commencé à me parler des angoisses que ressent un prof de lettres. Et pour avoir bien connu des profs de lettres, pour les avoir bien observés, pour avoir bossé dans des abattoirs, dans des biscuiteries, pour avoir fréquenté des bandits de grand chemin et des cinglés, je lui ai répondu que ça n'était pas la peine de me parler des angoisses d'un prof de lettres, que je connais la musique, correction de copie, organisation des cours, avancement selon échelon, écriture de poésie. Et dans tout ça, entre deux angoisses, ils ont encore l'incroyable force de se demander s'ils sont homosexuels. Ou si Claiborne, qui enseigne aux deuxième années, est un blanc-bec ou pas. Tu me demandes ce que je pense de l'affaire Kennedy ? Je ne pense rien de Kennedy. Là où je travaille, il y a une photo de Kennedy avec écrit en dessous « Martyr ». Tu crois réellement que c'en est un ? Un type qui a fait Harvard, une tranche de cul de première qualité, qui a bossé dur pour avoir une tête qui fait pleurer les bébés. Penses-tu qu'un homme est un martyr parce qu'il suit le chemin qui lui est déjà tout tracé ? Est-ce que c'est vraiment l'enfer de naître avec plus d'argent que tu ne peux en dépenser ? Est-ce que c'est vraiment l'enfer de ne jamais avoir à penser au loyer ? Est-ce que c'est vraiment l'enfer de te prendre une balle en pleine tête plutôt que ce soit toi qui te la mette tout seul ? D'où vient l'enfer là-dedans et quel nom lui donnes-tu ? Il n'y aurait que le gratin qui souffrirait. Combien de personnes ont-elles été enterrées le jour où on a enterré Kennedy ? Bordel, mais qui fait penser à un taureau qui saigne lors de la mise à mort quand il se rase ? Kennedy s'est jeté dans la gueule du loup, il aurait pu refuser de devenir président après tout. Moi j'aurais refusé. Oswald était un sale type, c'est vrai, il a lu trop de livres et pas assez vécu, n'a jamais apprécié la lumière du soleil, n'a même jamais pensé à regarder un chat marcher sur une carpette. Kennedy, lui, l'a sans doute fait. Willy, espèce de con. Je suis bourré, mais en dépit de cet exemple de soûlerie, je te remercie pour ta bonne préface. Et ma photo en première de couverture d'Outsider numéro 3, tu n'as pas peur que j'attrape la grosse tête ? S'il y a quelque chose que je déteste, c'est bien la fausse humilité, dire des trucs du genre « Oh, je ne mérite vraiment pas ça ». Mais ce qui est presque pire, c'est de le penser vraiment. Alors pour ne pas en arriver là, j'espère ne pas oublier mes soirées, mes nuits, mes souleries de cinglés dans les arrière-cours des cafés, les foutues prisons, les hôpitaux. J'espère me souvenir de cet oiseau aux ailes brisées dans la bouche d'un chat. J'espère me souvenir du fusil pointant à travers une fenêtre du cinquième étage. J'espère me souvenir de ce que je devrais me souvenir. J'espère que je resterai toujours le même, quelle que soit la graine plantée entre une mère indifférente et un père haineux. Et quand bien même je serai mort pour le pire ou pour le meilleur, et quand bien même je serai vivant, quelqu'un viendra déchiqueter ma cervelle de poulet et en cramer les morceaux. Et ils auront raison, parce que nous sommes dans l'errance à jamais. Il y a une question à laquelle nous n'aurons pas de réponse, comme un visage qui brûle dans la nuit. Et pendant un moment, j'ai cru que nous avions besoin du marxisme ou de Platon, ou d'une relecture de Shakespeare, ou de la totalité de toute chose, ou d'un bon copain. Mais il s'avère, Willy, que nous sommes tous irrévocablement perdus. Et nous faisons du mieux que nous pouvons.